Sosten Getel Dinamkor, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement a finalement confirmé en partie les accusations contre les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes d'avoir commis des exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires, etc. N'est-ce pas que le gouvernement est sensible aux cris de cœur de la population?
Je ne pense pas que ce soit vraiment le cri de cœur de la population, mais plutôt la pression à l'international qui a dû obliger le gouvernement à passer cette étape-là. Et donc, comme tout le monde, nous avons suivi les résultats à la radio. Et donc, nous suivons de très près l'évolution de la situation.
Et lorsque vous parlez de la pression, mais de qui en fait?
Vous savez bien que ce sont des rapports qui ont été montés par les Nations Unies et ensuite d'autres instances. Et donc, le gouvernement avait en son temps démenti le contenu de ces rapports. Et si maintenant le contre-rapport initié par le gouvernement vient confirmer certains faits, ça veut dire que quelque part il y a eu des avancées. Et donc nous suivons ces avancées-là.
Le ministre de la Justice a affirmé que tous ces cas font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Il a fait allusion aux audiences du tribunal militaire permanent et de la cour martiale, en session bien sûr. Est-ce là une démonstration de bonne volonté du président Touadéra de lutter contre l'impunité?
Mais la cour martiale, à ce que nous sachions, ce sont les Centrafricains qui ont été jugés, pas des Russes. Ici, il est question des exactions commises par les instructions russes pour tenir compte de l'appellation du gouvernement. Ce sont les instructions russes qui ont commis des exactions contre la population centrafricaine. Et ils ont le devoir de répondre devant les juridictions centrafricaines.
On a aussi dans le rapport des Nations Unies cité les forces armées centrafricaines et les alliés russes. En ce qui concerne les FACA, la partie centrafricaine, c'est ce que le gouvernement a pu faire.
Mais bien sûr, il n'y a pas que les alliés russes, il n'y a pas que les FACA, il y a aussi les CPC qui ont commis des exactions. Et ça, pour nous, opposition, il n'y a pas de machin. C'est tout ce monde-là qui doit répondre devant la justice. Or, à ce moment, nous voyons que c'est des menus frétins qui sont passés devant la cour martiale et ceux qui ont commis les exactions, on ne les voit pas encore. Il me semble que j'ai entendu dans le rapport du ministre que les Russes ont été rapatriés. Mais à quelles conditions ils ont été rapatriés? Après quelle procédure? Ça, c'est des questions qu'on a en droit de se poser.
Mais justement, en parlant des instructeurs russes, le ministre Arnaud Djoubaïa Bazine, comme vous l'avez dit, a affirmé que les auteurs des crimes ont été déjà rapatriés par leur hiérarchie pour être jugés. Sur ce point aussi, qu'en dites-vous?
On a vu la dernière fois une démonstration du pouvoir lorsqu'il avait arrêté un ressortissant français, je crois du nom de Guignolo. Ben oui, mais ces Russes-là ont été présentés aux publicains. On aurait pu faire la même chose. Il n'y a pas deux boîtes de mesures. Que le peuple sache, ceux qui ont causé du tort au peuple doivent être présentés. Et ensuite, la procédure, s'il est question de les extrader, on verra bien si ça répond avec nos lois nationales. Ce sont des centrafricains qui sont morts. Et lorsque, comme ça, on prend les gens qu'on dit qu'on a mis dans l'avion, on ne sait pas dans quelles conditions, qui sont rapatriés chez eux, alors là, on se pose bien la question de savoir si l'impunité va prendre fin dans ce pays.
Mais déjà, la bonne volonté du gouvernement, à travers 103 incidents mentionnés dans le rapport des Nations Unies, le gouvernement a pu faire un travail minutieux par le biais de cette commission d'enquête spéciale. Sur 103, 23 n'ont pas été pris en compte par le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a une bonne volonté de lutter contre l'impunité?
Nous n'avons pas dit le contraire. Mais quelles sont les assurances que cette procédure ira à son terme? Ce que nous attendons, c'est la justice et la réparation. Il me semble qu'il y a d'autres aspects qui demeurent encore secrets dans ce rapport-là. Il faudrait bien que les victimes soient identifiées et qu'il y ait réparation et que les poursuites soient entamées. Donc ce n'est qu'une étape. Et à ce niveau-là, nous pouvons nous prononcer.
Monsieur, le taux du féminicide inquiète les organisations de droits de l'homme ces derniers temps. La plupart des crimes sont imputés aux forces de l'ordre et de sécurité nationale. Que fait la coalition de l'opposition démocratique 2020 pour les causes des femmes et des filles dans ce pays?
Nous sommes coalition de l'opposition démocratique, nous ne pouvons que déplorer et condamner ces actes qui sont commis par des gens qui sont censés protéger la population. La question qu'on se pose, pourquoi aujourd'hui on autorise les forces de l'ordre à aller avec leurs armes, garder par devers eux leurs armes? Tout est venu de là. À l'époque, il me semble que les armes sont conservées dans les poudrières et que, sauf cas de mission, on ne les sort pas n'importe comment. Aujourd'hui, les armes se baladent partout dans Bangui. Il y a des braquages, on ne sait pas d'où ça vient. Et souvent, les doigts sont pointés vers ces forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est des épouses qui sont abattues à bout portant par des forces de l'ordre. Ça veut dire qu'il y a pas de problème. Les critères de recrutement dans l'armée. Est-ce que ces gens-là ont vraiment rempli les conditions pour être des militaires ou des porteurs d'armes? Parce que lorsque vous remettez une arme à un criminel, il va l'utiliser pour commettre des crimes. Si vous donnez une arme à un braqueur, il va l'utiliser pour braquer. Donc c'est toutes ces questions-là qui doivent être revues par la hiérarchie militaire pour pouvoir mettre un terme, trouver la solution. Ce n'est pas nous qui gérons l'armée.
Certains proches du pouvoir parlent des brebis galeuses, de ceux-là qui ont tué leurs femmes. On ne peut pas dire que c'est l'armée tout entière.
Mais bien sûr, on n'a pas dit que c'est tout le monde. On a recensé, je crois, une dizaine de cas de féminicides commis par les forces de défense. et de sécurité. Ça veut dire que c'est pas tout le monde. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que en amont, les précautions ont été prises pour mener des enquêtes sur la moralité de ces porteurs de tenues-là avant de leur remettre les armes? Apparemment, c'est ce qui ne se fait pas. Ailleurs, des études se font. Ailleurs, des enquêtes se mènent. Et lorsqu'on se rend compte qu'un agent a des velléités de criminel, on empêche qu'il touche l'arme. Vous avez des gens qui se droguent à longueur de journée. Personne n'en fait cas. Tout ça, là, c'est des choses qui concourent à augmenter la violence. Et lorsque vous avez l'arme à côté, c'est facile d'utiliser.
Monsieur Guettel, les acteurs politiques ont été conviés à Rome par la communauté Saint-Étidio pour évoquer le préalable du dialogue républicain annoncé par le président Touadéra. Faites-vous foi à la déclaration finale de cette rencontre qui parle de l'inclusivité?
Au niveau de la CO2 2020, je ne pourrais pas vous donner de réponse en ce moment, puisque nous attendons encore le retour de ceux de nos membres qui ont été conviés à titre individuel à ces rencontres-là. Et lorsqu'on aura leur compte rendu, certainement qu'on pourra donner une suite à votre question.
Mais vous ne cessez au niveau de la CO2 2020 de réclamer l'inclusivité pour ce dialogue.
Mais vous savez bien que c'est une des conditions sur lesquelles nous n'allons pas reculer.
Et donc ça, vous ne pourrez pas attendre que vos collègues n'arrivent d'abord avant de se prononcer.
Tout à fait. Il faut que ce soit une décision qui soit prise de manière collégiale. On ne peut pas commenter ça maintenant. Il faudra que les gens arrivent, qu'on sache ce qui a été arrêté. Et est-ce que, quel sera l'impact de la déclaration de Rome sur le comité préparatoire?
Monsieur Sten Guettel-Dilamcor, merci.
Merci beaucoup.